las tormentas agitan los aires, nubes oscuras no se pueden ver. Aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. Alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación.
Radio Galère 88.4. Salut Steph.
Salut Théo.
Vous êtes avec nous jusqu'à 19h pour la parole informative. Le téléphone 04 91 08 28 10. Appelez, on vous prendra ça en filtration.
Et librement.
Et librement, enfin, hein. Enfin, de la limite de la de la possibilité technologique, évidemment.
Eh oui.
Donc librement, librement, sans filtration aucune. Bon, donc voilà, jusqu'à 19h, on va parler d'actualité. Alors l'actualité, aujourd'hui, pour nous, l'actualité, bon, d'une part, bon, au Proche-Orient.
Il y a, voilà, il y a plusieurs... L'actualité, juste là, en ce moment même, c'est à la seconde, c'est les débats à l'Assemblée nationale, bon, c'est leur... Enfin...
Ouais,
c'est leur
alors,
bordel.
Ok, ouais, c'est,
enfin, on peut le faire un peu vite parce que c'est pas super intéressant de toute façon, c'est leur tambouille.
C'est leur tambouille, dans la mesure où, de toute façon, c'est voué à l'échec, d'une manière ou d'une autre. Je t'ai mis le casque trop fort à toi aussi. Ah, trop bas. En fait, tu peux le monter, toi, à ton niveau. Tu as un petit bouton là-bas, devant toi, là, là-bas, loin, là, au milieu. Voilà, tu as un bouton où tu vas pouvoir régler le casque. Ah là, c'est un mieux.
Voilà, oui,
moi aussi, il était faible. Ceci dit, donc, leur tambouille, enfin, en fait, de quoi on parle, en fait, aujourd'hui, se discute sur la niche parlementaire de
LFI.
LFI. Donc, est discuté
l'abrogation de la loi Touraine et Borne.
Grosso modo, les lois retraites qui ont fait monter, qui ont fait grimper le. Enfin, qui ont réduit l'accès à la retraite, enfin, en tout cas, qui ont éloigné l'accès à la retraite pour ceux qui escomptent.
Voilà.
Pour ceux qui comptaient dessus. Bon,
donc
ceci dit.
En gros, il y a une niche parlementaire, c'est-à-dire qu'ils ont 24 heures pour faire semblant d'être un gouvernement, pour faire vraiment simple.
Même pas donc, une journée.
24, oui, une journée, ça s'arrête à minuit pile.
Ouais.
Donc, s'ils n'arrivent pas à faire voter quelque chose avant minuit, en gros.
Eh ben, voilà.
Dans leur basse-cour.
Eh ben, c'est raté, voilà.
Bon, en gros, c'est un peu tout ce qui va se passer là, les prochaines semaines. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur petite tambouille de députés entre eux.
Entre les amendements, enfin, presque le millier d'amendements à examiner.
Oui, ils vont envoyer au Sénat, revenir à l'Assemblée. Après, ils vont faire des commissions de l'Assemblée. Ouais. Ils vont faire, voilà, qui annuleront, comme ils ont fait là, annuler les amendements LFI. Enfin, voilà, tout ça sera, ça va occuper un petit peu l'espace médiatique. Donc voilà, ça c'est la tambouille qui ne change pas grand-chose. Enfin, on va pas avoir de révolution demain matin, ni de fin du monde.
Non.
Si le Premier ministre tombe, même dans les escaliers, ça ne changera rien pour nous.
Non, voilà, résumé.
À part une blague, à part un fou rire, mais sinon, rien de plus.
Rien de plus. Donc voilà, on va pas s'étendre plus que ça. Déjà, on a passé beaucoup de temps, finalement.
Dommage, j'aurais pas une petite musique de cirque, là, il faut le préparer pour la prochaine fois.
Ça
se travaille.
C'est en préparation. C'est en préparation. Non, il y a un petit outil qui s'appelle. Enfin, je t'en parlerai après.
En off, on fera la off. Surprise.
Voilà. Ceci dit, donc, il y a un truc qui est non moins... Enfin, c'est un peu un sketch un peu triste, hein, mais c'est un sketch quand même. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un sketch triste, mais c'est un sketch quand même.
C'est Barnier qui est tombé ? Non.
Déjà. Il entraîne Macron avec ? Oh. Il l'a attrapé par le manche. Ils sont tombés à deux. Bon, non, même pas. C'est le sketch du procès de l'effondrement, enfin des responsables, la recherche de responsabilité judiciaire pour l'effondrement
limité.
Oui.
Responsable.
En tout cas, on s'est un peu fait un petit plaisir avec Stéphane d'arpenter un peu les allées, enfin d'aller assister un peu, comment se défendre nos édiles, enfin nos ex-édiles. Quoique non, ils sont peut-être pas ex.
Ouais, c'est toujours les mêmes, hein, je pense.
Tu vois, ils doivent avoir 60 ans. Je suis sûr qu'ils sont à la retraite. Non, je suis dégueulasse. Les députés, c'est à 57, hein, au passage. Juste comme ça. Hein. Ceux qui décident que tout le monde va bosser jusqu'à 64 ans, eux, ils s'arrêtent à 57. Bon, allez. Juste au passage.
Bon, en tout cas là, par rapport, effectivement, ce qui traumatise un petit peu depuis plusieurs années Marseille.
Voilà. Donc, on a vu des édiles, enfin, des responsables de la sécurité civile, de la sécurité, enfin, du bâti, enfin, des responsables, enfin, des gens.
Là, on parle de la rue de Bagne, l'effondrement des bâtiments.
Oui. Oui, merci de me regarder. Voilà, tout à fait. Donc, on parle des gens qui sont plutôt bien payés, des experts auprès des tribunaux, enfin, des gens super trucs. Et là, donc, toute la journée d'hier et d'aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui sont experts, donc qui ont, j'imagine, je suppute, envoyé des factures parce qu'ils ont fait des expertises, donc ils ont travaillé. Donc, c'est un travail hautement intellectuel et responsable.
Apparemment, il est même très, très intellectuel, puisqu'ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit, ni écrire, ni aller quelque part.
Ils écrivent des comptes rendus, en tout
des
cas.
Fois. Des fois, quand ça se fait pas au repas ou par téléphone.
Oui, mais en tout cas, la facture, il faut bien qu'il l'envoie sur la base de quelque chose.
Ah, la facture, oui.
Sur la base d'un travail. Tu vois, même Pénélope Fillon, elle avait été obligée de faire
un faux. Enfin, à l'époque, en plus, la pauvre, il n'y avait pas de ChatGPT pour écrire le résumé.
À sa place, voilà. Et donc... Donc ces gens-là, en fait, plein d'experts, donc plein de... Enfin, je pourrais ouvrir le mail. Alors, après la petite pause musicale, je pourrais ouvrir le mail et citer les noms des gens. Mais en principe, on n'a pas le droit de le faire parce qu'ils n'ont pas encore été reconnus coupables. En tout cas, j'ai vu que des gens, des experts, auprès du tribunal, des gens responsables à la mairie ou pour l'habitat, des gens de partout, qui ne sont sur l'espace de 5 ans, 6 ans, jamais descendu dans les caves du 65 rue d'Aubagne, justement la cave qui s'est effondrée.
Eh oui, c'était un peu dangereux.
Alors c'est ballot, c'est dingue que tous ces gens-là ne soient jamais descendus dans la cave. Alors ils sont venus à chaque fois, hein, venus sur des alertes, sur des signalements de désordre de construction, enfin de désordre du bâti. Donc grosso modo, en fait, il y avait déjà baleine sous gravillon, mais malgré tout, ils ont été constants dans leur refus, enfin dans leur truc de pas descendre dans la cave. Là, cet après-midi, il y avait aussi Alors là, je trouve ça génial. Donc un gars qui dit, ah ben en fait, je suis... Bon, en fait, il y a eu deux fois. La première fois, j'ai pas voulu descendre. Bon, je suis pas allé. Et la deuxième fois, quand j'ai voulu descendre, je pouvais pas. Enfin, la première fois, je pouvais, mais je suis pas descendu.
La deuxième fois, il avait pas les clés.
Et la deuxième fois, je voulais, mais je pouvais pas parce qu'il avait pas les clés. Et tu dis, ok, donc en fait, le gars, il a pas les clés. Un immeuble, il risque de s'effondrer, mais ah, bah si j'ai pas les clés, bah j'y vais pas. Hein.
Il est pas expert en serrurerie.
Bah, alors, tu sais,
c'est quand même un petit peu ce qui a tout le temps à chaque fois dans les trucs, c'est oui mais moi je suis expert juste de cette feuille là, mais pas la feuille d'après.
Alors effectivement c'est, ça joue vraiment chacun dans son couloir, hein, comme au cercle des nageurs. Tu sais, chacun dans son couloir, surtout on n'empiète pas sur le de compétences du voisin, surtout pas. Ceci dit, pour quand il y a un squatter qui occupe le logement là et qu'il nous empêche de vérifier le bâti, eh ben on appelle un serrurier dans le quart d'heure et on rentre dedans. Bien qu'on rentre dans l'intimité du gars, on s'en fiche, on rentre dedans, on vérifie, parce que c'est de la responsabilité du vérificateur, hein, oui, du là, responsable.
Ça, là ça marche, là ils n'oublient pas de rentrer, de pénétrer à l'intérieur, même s'ils n'ont pas les clés.
Voilà, ah, parce que... Je suis désolé, tu es responsable. Enfin, responsable, pour moi, ça ne veut pas dire que tu touches plus d'argent. Pour moi, un responsable, ça ne veut pas dire que tu es chef. Pour moi, un responsable, c'est quelqu'un qui assume sur ses épaules la charge morale du travail qui doit être fait. Enfin, quelque chose comme ça.
Ça n'a pas l'air d'être leur définition. Je crois hier, si je me rappelle bien, il y avait une définition sur le spectre, c'est-à-dire le responsable, il a un spectre super large, et après, ça se restreint.
Ouais.
Mais il ne s'occupe pas de ce qui est en dessous. C'est-à-dire le responsable, il est responsable.
Ouais.
Et après, il y a un sous-responsable. Donc le responsable n'est pas responsable des sous-responsables, puisqu'il y a les sous-responsables. Ouais. Les sous-responsables qui ne sont pas responsables des responsables. Les sous-responsables ne sont pas responsables du mec qui est expert, et l'expert n'est pas responsable du mec qui a fait la déclaration. Du coup, personne n'est responsable, tout va bien, c'est la dichotomie de la hiérarchie des responsabilités.
La dilution de la... Non, mais c'est même pas ça. Hier soir, souviens-toi, moi, j'ai entendu un truc magnifique, une perle. C'est un gars qui dit « Ouais, mais la hiérarchie ne m'a pas dit d'y retourner. »
Eh oui.
La hiérarchie ne m'a pas dit d'y retourner, alors je ne suis pas retourné, donc je n'ai pas vérifié. Ben non. C'est quelqu'un qui était venu pour justement sur 65 qui lui a pas le choix, il était descendu dans les caves. Mais alors c'était pas pour vérifier le bâti, c'était parce qu'il y avait une canalisation d'égout, enfin d'eau usée, d'eau sale qui coulait,
qui était au fond de la cave des 65.
Voilà. Alors du coup il est descendu pour voir la canalisation. On a dit ah il faut changer. Et donc ils ont remplacé le truc avec un tuyau PVC qui coulait toujours, hein, apparemment. Mais le travail avait été fait, mal, mais fait.
Ce qui est important, c'est d'être payé, après tout.
Et le responsable, vérificateur, lui, je sais pas, si rien de le tuyau, il ne voit pas les murs qui sont autour.
Mais bon.
C'est pas son job.
Mais de la même manière.
Après, moi, je te parle du gars qui doit faire l'expert auprès du tribunal, qui avait. Il a été mandaté en 2009. Pour expertiser entièrement le 63, enfin c'est pas 65, le 63, le 63.
Celui de la mairie.
Celui de la mairie. Donc il a rendu son rapport d'expertise trois ans après, en disant, non mais de toute façon là, avant que Marseille Habitat l'achète, donc en disant, ouais. Mais la copro d'avant, non mais laisse tomber, ils sont pas solvables, de toute façon ils pourront jamais payer. Ça fait plein de fois qu'ils votent les travaux, mais il n'y a pas l'argent pour le faire. Donc, laissez tomber.
Mais
et donc, il met trois ans pour faire ça. Mais à aucun moment, il ne descend dans la cave. Il s'arrête au rez-de-chaussée parce qu'on lui a dit « Non, mais c'est bon, on a fait les travaux, on a cliné tout le reste. » Donc, pour lui, puisque les travaux ont été faits...
Oui, le plancher s'effondre. Si on change le plancher, on ne regarde pas.
Si on ne regarde pas, en tout cas, il s'est passé quoi ?
Pourquoi il s'effondrait ?
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis... Enfin, en tout cas, toi, t'es payé. Après... Toi, je suis désolé, Stéphane, toi, t'es payé pour faire un truc, un boulot de A à Z. Si tu le fais de A à C, tu ne seras pas payé de A à Z. Enfin, tu ne seras pas payé pour ton expertise. En plus, tu mets trois ans à la rendre. Tu te dis, putain, ça, c'est un travail fouillé. Non. En fait, tout le monde s'en fichait complètement de ce pauvre bâtiment de la rue d'Aubagne.
Ce qu'il faut noter aussi par rapport à ça, il faut bien avoir conscience quand même, c'est que la mairie peut exproprier des propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux. Ce n'est pas parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux qu'il est normal qu'un immeuble s'effondre. Il n'y a pas de connexion directe, puisque la mairie peut exproprier les propriétaires qui ne font pas les travaux pour une maison de péril. On peut comprendre que les propriétaires ne puissent pas avoir l'argent pour faire les travaux. Et heureusement, ce n'est pas parce qu'un propriétaire est pauvre qu'un immeuble s'effondre. Heureusement, la mairie peut racheter les immeubles qui sont en péril. Elle a même l'obligation, normalement, de le faire et de ne pas laisser le danger sur la voie publique.
Bon, voilà. Mais et plein d'autres raisons. Enfin, là, en l'occurrence, donc, en 2012... C'est Marseille Habitat qui se porte acquéreur.
Oui, c'est d'ailleurs un petit peu dans le but. Hein. Quelque part, il se porte acquéreur pour, normalement, pour réhabiliter le 63.
Voilà. Ce qui ne sera jamais fait. Alors, on apprend par ailleurs, là où je te rejoins, ce que tu disais la dernière fois. Je disais, non, je ne suis pas sûr. Donc, effectivement, là, on apprend aussi, on a appris à l'audience de ce matin, qu'effectivement, donc là, pour le coup, Marseille Habitat, donc... Les pouvoirs publics, enfin les autorités, enfin la mairie, enfin accessoirement, enfin si pas tout à fait, mais prêt, enfin bon voilà, ok.
Les services de la mairie.
Ouais, enfin, hein. Ont laissé une lucarne ouverte au quatrième étage, sous le toit, donc il y a les lucarnes qui s'ouvrent sur le toit, donc pour laisser entrer la pluie, donc effectivement. Et ils ont enlevé toutes les cloisons pour contrôler ce squatter.
Oui, sympa.
Alors, juste,
excuse-moi, quand je pense qu'il y a des gens qui sont morts, les potes qui sont morts, et qu'en plus Godin se gossait après avoir dit qu'il ne regrettait absolument pas du tout sa gestion de la situation, qu'il avait trouvé qu'il avait été fantastique, que ce soit à cause de la patinoire ou n'importe quoi, qu'il avait vraiment tout investi comme il fallait dans la réhabilitation des immeubles. Ce même mec, qui fait rentrer volontairement... Il se permet de faire une blague sur la pluie. C'est la pluie qui a fait des éboulements. Je trouve que c'est quand même assez dur. Et je ne sais pas ce que pensent les proches immédiats. Mais bon, c'est quand même un peu dur à entendre le maire de Marseille en train d'expliquer que c'est à cause de la pluie quand il a laissé la pluie rentrer.
Ouais.
Bon. On continue par contre sur l'intérieur. Voilà.
Alors l'intérieur, il y a aussi un autre truc qui je trouve que le rebond. Donc c'est, encore une fois, c'est des responsables de la mairie qui expliquent que, enfin de la mairie, qui te disent ouais, en fait, on a.
Donc, la lucarne était.
Bon, ouverte. Déjà la lucarne était ouverte. Ouais. On leur a demandé, mais vous êtes monté voir l'état de qu'est-ce que ça. Bon non, silence. Alors là, entends les mots, je voulais. Je sais pas, tu ouvres un truc pour faire des dégâts, ben tu vas voir les dégâts. Enfin, je sais pas, non. Abandonné. Non, en fait, ça montre une espèce de gabegie de vraiment je m'en foutisme, c'est vraiment une gestion de branque totale. Une gestion de branque totale par des incompétents. Le gars, il te dit, tu sais quoi, il te dit, oui, en fait, on a enlevé les cloisons, il te dit ça au tribunal, donc sous serment, on a enlevé les cloisons, oui, et en plus, on s'est dit, comme ça, bah, ça fera moins de poids, du coup, ça va soulager la structure.
Ah ouais. On peut enlever même les murs mètres, comme ça c'est plus léger.
Tu sais, le gars il te dit ça sur un immeuble de 3 siècles à peu près.
Ouais.
Hein, moi je sais pas, moi je suis pas du tout de vraiment pas du métier, tu vois. Mais on m'a toujours dit, ou par contre les cloisons à partir d'un certain âge, t'y touches pas parce que ça devient porteur. Enfin, on m'a toujours dit ça. Je sais pas pourquoi.
Oui, lui, puis, ouais, même, vois, ouais, même, moi, une, même pas
moi,
forcément
moi, le profane, porteur. Le profane de base, tu vois, je sais ça. Donc le gars qui gère le patrimoine, qui est responsable, et qui est... Ah non, lui, pardon, il n'est pas responsable. C'est le responsable de la mairie, et il y avait aussi l'expert. Je confonds les témoignages. On va pas dire de conneries, je vais ouvrir la... Je vais mettre une musique. T'as la peine de... Non. Et je vais mettre une musique. Et comme
après,
ça...
je peux aussi...
Aller en chaîne.
Moi, je voulais lire un truc toujours sur ce truc-là. Je voulais lire un texte là, de Basta. Ça va être peut-être un petit peu long, mais je vais couper quand même. Donc, c'est sur le site Basta Media. Je vais lire un petit peu. Je trouvais que c'était intéressant de, enfin, que ça recadre un petit peu. Enfin, j'expliquerai après peut-être. Donc, un an après l'effondrement de la rue d'Aubagne, qui a fait 8 morts, les arrêtés de péril et les délogements continuent de pleuvoir à Marseille, tandis que les personnes évacuées naviguent entre hébergements, en hôtels et démarches kafkaïennes. Ni oubli, ni pardon. Pendant de longues minutes, le message est scandé par une foule de plusieurs centaines de personnes. L'action se passe au milieu de la rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles, cœur populaire de Marseille. Ce 5 novembre 2019 au matin, il résonne en réponse à l'incurie qui a conduit au drame de la rue d'Aubagne. Un an plus tôt, l'immeuble numéro 65, entraîné par la chute de son voisin en 63, a englouti 8 vies sous les gravats. Il s'appelle Fabien, Marie-Emmanuelle, Simona, Nias, Julien, Ouloum, Shérif et Taher. On ne comprend toujours pas cette tragédie à peu arriver dans la deuxième ville de France, Lens, Iliane Lablonde, la mère de Julien, l'un des disparus du 65. Lors de l'hommage rendu aux victimes dans la soirée, j'étais heureuse de voir mon fils s'installer dans cette ville. Il aimait ce quartier, il le trouvait tellement vivant et avec lui apprenait à l'aimer. Poursuit la franco-péruvienne à Paris. Alors, au nom également des parents venus d'Italie et présents à ses côtés, elle remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont montré la solidarité, ceux qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur et qui n'ont rien fait pour ce qui n'arrive pas, on va les apprendre. Les négligences, l'incurie et le mépris ne sont pas arrêtés ce 5 novembre 2018. Jean-Claude Gaudin, maire depuis 24 ans, et ses colistiers se sont recueillis cette année entre eux, loin des victimes et des habitants du quartier, dans l'enceinte de la mairie. Il y a un an, il n'avait pas daigné adresser ses condoléances aux familles. La colère gronde. Par crainte d'une nouvelle catastrophe, les semaines qui suivent l'effondrement, la mairie fait évacuer dans la précipitation 187 immeubles et leurs 3700 habitants. Aujourd'hui, les évacuations continuent. Les personnes finissent dans les hôtels, attendent une hypothétique réintégration dans les appartements ou un relogement ailleurs. De nombreux quartiers, y compris la vitrine touristique du Panier, sont touchés. La vie du centre-ville populaire bouillonnant en est transformée. Les déplacements d'habitants, du provisoire qui devient, pour beaucoup, permanent ou rendu l'ambiance délétère. Difficile de connaître le nombre exact de personnes concernées par ces évacuations, dont certains ont commencé avant même le 5 novembre. Donc je raccourcis un petit peu. Ce qu'il faut dire, c'est qu'enfin, y a plusieurs exemples de personnes qui, dans leur quotidien, donc si ça vous intéresse, regardez le site. Alors, il faut savoir que tous se retrouvent dans une situation. Enfin, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que ça parle de non seulement des gens qui sont morts, mais aussi de toute la conséquence au niveau logement pour Marseille. C'est un tout, c'est une attaque globale qui s'est faite contre les pauvres. Voilà. Voilà, je sais pas si.
Voilà, alors du coup, spéciale dédicace à tous les gens que j'ai, enfin, à une bonne partie de ceux que j'ai entendus. Non, pas celle-là, ça je la garde pour des copains. tiens, voilà, hop, allez, une petite pause et on arrive juste derrière.
C'est pas fini. pleurer mes copains. J'ai entendu des grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté une voix sans voix, crié pendant des mois, hurlé sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Radio Calaire à 88.4 0491 028 10 si vous voulez intervenir.
Alors, quand c'est... on s'est rencontrés, t'étais bien.
Et oui, quand on s'est rencontrés.
Ouais, voilà.
Ouais. Donc on est toujours par rapport à la rue de Bagne.
Oui.
Et tu as pu faire peut-être des petites recherches.
Voilà. Tout à fait. J'y suis. Ah, charger plus, oui, parce que...
J'ai vu aujourd'hui, là, un petit peu dans le live, là, qu'il parlait même des oriflammes, entre guillemets, c'est-à-dire les bâches qui étaient mises devant le 63 et il posait la question, est-ce que c'était des bâches pour avertir la population qu'il y avait des travaux ou est-ce que c'était des bâches pour cacher les fissures ?
Pour pas affoler les gens.
Personne n'a pu répondre clairement à la question pourquoi ils avaient installé ces bâches.
Ah voilà, donc là c'est Gilbert Cardi. Donc voilà. À l'époque, donc, le syndic nous dit que le plancher du rez-de-chaussée a été refait et que par conséquent les caves sont sèches et saines. C'est pour cela que nous ne sommes pas descendus au sous-sol. Ouais. On nous a dit que, donc on ne fait pas. Alors heureusement, il y a un architecte, là, Fabrice Mazot, qui dit mais c'est totalement impensable de ne pas descendre. Qui réagit sur demande du président. Et au vu des photos dont on dispose, on doute très fortement que ces travaux aient eu lieu, achève donc Henri de Lépinay, un autre architecte.
Après, il faut toujours avoir à l'esprit qu'ils n'étaient pas vraiment poussés par les vendeurs de sommeil. Hein. Il y a quand même plusieurs mails, messages comme quoi, si vous pouvez ralentir les travaux, c'est pas plus mal.
Oui, mais là, c'est...
Non, mais juste avoir ça en tête quand même.
Oui, d'accord.
C'était fait sous les bonnes étoiles.
Donc là, Gilbert Cardi, expert judiciaire, donc. Ce que je remarque principalement à l'époque, c'était que la façade est en train de bomber. expert auprès du tribunal. Là, tu dis, il a mis 3 ans à faire son truc, donc c'est expert. Ok, tu fais waouh. Mais c'est totalement pour ça de ne pas descendre. Tu dois faire une expertise sur l'ensemble du bâti. Ouais, mais non, en fait, on m'a dit que c'est. Tu sais, le gars, il est expert. Donc, il doit expertiser. Attends, je te tiens bien. Il doit expertiser non seulement. L'état du bâti intégralement, mais il doit aussi réaliser un état de l'immeuble, travaux à engager et coûts. Donc en 2009, on lui demande de faire cet audit à cet architecte et expert judiciaire. Il rend son audit en 2012, cet architecte, donc expert auprès du tribunal de justice. Et donc, lui, il dit, j'ai vu une boursouflure, tout ça. Voilà. La façade commence à s'ouvrir sous la rue. L'expert auprès du judiciaire, qui a mis 3 ans à rendre son truc, dit, la façade commence à s'ouvrir sous la rue. Le président du tribunal dit, la façade est en train de...
Il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, quand même. Parce que, quand même, si on fait le bilan, là, en fait, on a l'impression, quand même, que... Tous les 6 mois, il y avait un expert qui passait. Il lui disait qu'on ne va pas le faire maintenant, quoi, c'est ça ? C'est-à-dire que pendant 10 ans, tu as des experts qui passent, ça s'effondre, mais ça va.
Bah en fait,
c'est bien ça, non ? Un peu le résumé.
Alors, il y a pire, dans cet après-midi, alors moi, là, par contre, je n'ai pas suivi, c'est Christian Gilles, je crois, hein, que je ne dise pas de bêtises. Et il est ex-directeur général de Marseille Habitat. Enfin, tu vois, oui, c'est le chef. Mais bon, c'est lui qui porte le chapeau. À sa charge de se retourner envers ses subordonnés qui n'ont pas fait leur job. Soit. Vous dites qu'il y avait une visite mensuelle au 63. Est-ce que ces visites servaient à surveiller l'état structurel de l'immeuble ou simplement à vérifier que l'immeuble n'était pas squatté? Et là, Christian Gilles, ex-DG de Marseille Habitat, qui dit « C'était les deux.
» C'est monstrueux, quand même.
En fait, donc, sa préoccupation, qu'il n'y ait pas des salauds de squatters dans son bâti...
Qui ne dorment pas dehors. Ça, c'est vraiment que les gens dorment dehors, qu'ils ne soient pas protégés par le bâtiment. Ça, c'était important. Que les gens meurent dedans, ils s'en foutent.
Inversé, c'est comme ça. qu'il y ait des gens qui occupent sans droit ni titre était aussi importante que l'état du bâti.
C'est ça.
Voilà.
Pour lui, il met au même niveau.
Voilà.
Ça le dérange tellement, ça le ronge de penser que des gens pourraient utiliser un bâtiment vide pour dormir à l'abri. Enfin, l'abri, c'est beaucoup dire, hein, là. Mais pour dormir au sec, c'est beaucoup dire aussi. Ouais. En tout cas, ça le ronge autant le fait que le bâtiment soit squatté plutôt qu'il soit détruit, plutôt qu'il tombe en ruine. Pour lui, c'est au même niveau.
Oui.
Ça en dit beaucoup.
Ça en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire de ce bâti.
Le rapport d'urgence et quelle est leur vision du quartier. C'est quand même un truc énorme que le mec soit assez capable de dire en fait les deux au même niveau. Je vais vérifier surtout que ce soit pas squatté, hein, alors que ça s'effondre, ok, et puis surtout que ce soit pas squatté. Si encore il voulait que ce soit pas squatté pour pas qu'il y ait de mort à l'intérieur, je veux bien, mais en fait même les gens qui ont payé, ils sont morts, donc ça avait pas l'air d'être son souci numéro un.
Non, accessoirement c'est les voisins, ils payaient pas pour lui.
Oui.
Bon, ceci dit, je reprends donc encore sur ce histoire de tribunal. Enfin, c'est...
Non, je voulais dire que s'il s'inquiétait de la vie des gens qui étaient dans le bâtiment, enfin, si le bâtiment s'effondre, sauver des vies, il aurait pu s'inquiéter aussi pour les voisins. Ça n'avait pas l'air d'être son souci numéro.
Ah, mais je crois que depuis le début là, de ce procès, j'ai l'impression que les gens. Attends. Allez, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? En tout cas, les gens qui ont été mis en place par l'époque Gaudin. Dans les services de l'urbanisme de la ville de Marseille, ce sont des catastrophes ambulantes. Tous ceux que j'ai entendus au tribunal.
Ah oui, ils ont été sélectionnés.
T'as l'impression qu'ils ont fait un casting spécial, tu sais, genre, choisis ton. Paye ton teubé. Alors, putain, attends, j'en ai trouvé un. Tu sais, il y en a, ils font des dîners de cons. Mais de Marseille, ils faisaient pire. Putain. C'est pas vrai. Enfin, pardon, excusez-moi, j'ai la langue qui fourche.
Ah, mais pas tout à fait, parce que dîner, je crois que justement, enfin, il s'organisait quand on a demandé. Alors, vous savez qu'il y a des traces de comment vous êtes organisé, comment vous suiviez les dossiers. C'était justement au dîner. Donc, c'était sûrement au dîner de cons ou d'incompétents, je sais pas.
Mais... Ceci dit, donc là, il y a encore une fois Fabrice Mazot, donc architecte, qui est appelé en tant qu'expert. Cette fois-ci par le tribunal qui juge aujourd'hui, qui lui dit je vous l'ai déjà dit, l'immeuble comportait de multiples fragilités et l'eau a été un facteur aggravant, mais nous, on a été désignés pour s'intéresser à l'effondrement du 5 novembre. Et le 5 novembre, on sait ce qui s'est passé. L'effondrement du 5 novembre, ce n'est pas l'eau.
C'est quoi? C'est le pastis?
Non, c'est le fait que la poutre... Enfin, allez, ça va. Allez,
c'est le fait que la poutre... Vas-y.
Voilà.
Non, sérieusement. Parce que dire que c'est pas l'eau, c'est essayer de trouver... C'est comme l'histoire du... Est-ce que ça commence par le 63 ou le 65? C'est essayer de trouver quel est le dernier bout de gravier qui a entraîné tous les autres, pour dire que c'est la faute à personne. Non, c'est une responsabilité collective à tous les niveaux. L'échec, il est de partout, à la mairie et chez les vendeurs de sommeil.
être lesbienne, mais c'est sa maman qui veut pas. Alors que son père qui voulait qu'on fasse un garçon, lui, ça ne gêne pas. Parce que les filles, lui, il aime bien ça.
Shopping, c'est chiant. De toute façon, le lundi c'est muscu, le mardi c'est hand. Sa copine lui demande quand est-ce qu'elle se voit. Les rênes, c'est un peu elle qui les tient. Mercredi, c'est promis, il sera pour toi. Je pense à tes petits seins et à ta bouche.
Radio Galère 88.4 04 91 08 28 10 si vous voulez intervenir. Bon, ceci dit, on n'a pas fini de toute façon de. Il y a un truc qui est vachement bien en fait sur comment ça s'appelle sur le site de Mars Actu. Il y a un live.
Ça c'est bien de
parler. Voilà.
Y a tout le monde peut suivre.
Voilà, tout le monde peut suivre en fait ce qui se passe au tribunal. C'est, si vous pouvez pas y être. La salle est grande, hein, si vous avez un peu de temps, franchement, c'est les voir en train de dire, tu sais, leur pose des questions, le juge pose des questions, le gars il fait ah bah, je sais pas quoi vous répondre.
Oui, ce que vous me dites est impossible. Oui, c'est vrai. Ok. On fait quoi avec ça?
Ouais, ok. Non, enfin bref, les voir comme ils sont minables, ah, c'est dans leur défense. C'est à tous ces gens qui ont, encore une fois, qui sont des cadres, tous sont des cadres, sont des responsables, tu vois. Mais sauf que la responsabilité, ils ne la prennent pas, ces gens-là.
Et non, on est toujours dans la piscine, chacun dans sa ligne. Personne n'est responsable de rien. Voilà. Je crois que c'est ça ce qui est sur le sujet qu'il faut insister, c'est que la rue d'Aubagne, c'est pas juste un accident. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est le 63, le 65 qui s'est effondré, si c'est le dernier gravier, si c'est parce que le mec a claqué la porte parce qu'il a coincé que l'immeuble s'est effondré. Parce qu'on pourrait revenir à là, peut-être qu'effectivement la dernière personne qui a fermé la porte a fermé un peu fort et l'immeuble s'est effondré.
Et puis autant il avait une barbe blanche.
Donc où il a marché un peu fort en descendant les escaliers. Mais voilà, si on veut remonter jusqu'à le dernier moment qui a écroulé les bâtiments, on va tomber sur quelque chose d'absolument ridicule. Effectivement, non, c'est pas la dernière fois que t'as marché dans l'escalier, c'est pas quand t'as fermé la porte. C'est bien c'est... avant, oui, et oui. C'est pas juste un élément, c'est tous les éléments entiers qui font que ça s'écroule. Oui. Et depuis 10 ans qu'il y a des alertes. Donc c'est pas, y a pas un truc qui n'est pas responsable. Ils sont tous responsables à tous les niveaux. Il y a pas chacun est sur sa ligne et il y a pas de responsabilité. C'est faux. Oui. Et la mairie, pour moi, en premier, parce que la première des choses, c'est l'abandon de Noailles et de la rue d'Aubagne, qui était volontaire de leur part, et qui est le premier déclencheur de tout le reste. Quand on s'en fout, on arrive à ces résultats-là.
Ouais. Voilà.
Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la tentative d'essayer de diviser les problématiques en disant « Est-ce que ça vient vraiment de là ?» ou « Est-ce que ça va vraiment de là ?» Non, c'est un dysfonctionnement général à tous les niveaux. Et au plus haut niveau, et surtout au plus haut niveau.
Ouais, surtout. Ouais. Bon.
Je sais pas si c'était d'autres éléments. Ah oui, on parlait sur. Donc, est-ce que tu es allé jusqu'à expliquer exactement pour le live, là, comment y aller sur Mars Actu, de toute façon.
Sur Mars Actu, vous verrez, il y a un dossier spécial rue d'Aubagne, effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Vous tomberez facilement sur le live, et le live, parce qu'on n'a pas le droit d'enregistrer, ni de filmer, ni de prendre des photos pendant un procès, sauf dérogation exceptionnelle. Enfin, en France, en tout cas, c'est comme ça. Donc, le procès est retranscrit en direct live. En fait, y a des gens de Mars Actu qui s'y collent et qui font ça, qui font un super job.
On les remercie.
Ouais. On les remercie, déjà. Et donc, j'encourage à tous ceux qui s'y intéressent à y aller. Tous les jours, c'est en direct. Les comptes rendus sont en direct.
C'est public, voilà. Voilà. Et public au tribunal, et sinon le live sur le site.
Ah oui, et sinon oui, juste un petit truc aussi super important quand même à dire, c'est qu'en fait le tribunal, c'est les gens sont jugés au nom du peuple français. Donc un citoyen a le droit d'aller au tribunal,
voilà,
pour voir ce qui s'y passe, pour voir comment la justice est rendue en son nom. Enfin, c'est super important à un moment donné de le faire. Alors il y a des audiences qui sont un peu plus, on va dire, fréquentées que d'autres. Malheureusement, qui s'intéressent à des histoires de viol, tout ça, ça les vide. Mais les histoires un peu plus médiatiques, bon, c'est un peu plus, il faut un peu se jouer des coudes. Mais en principe, tout citoyen devrait pouvoir y aller, dans la limite du possible, enfin, des locaux, etc. C'est pour ça d'ailleurs que l'audience se passe dans une très grande salle, qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Donc il y a des gens qui s'y collent. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez suivre les choses sur le site de Mars Actu. Voilà. Bon.
Donc on était sur ce sujet qui, bien sûr, touche beaucoup les Marseillais, nous touche beaucoup. Mais il se passe malheureusement...
Il n'y a pas que ça.
Pas que ça, malheureusement, ouais. Dans le monde.
Il y a aussi le tribunal, le procès de le procès de l'homme le plus riche de France aujourd'hui. Il était appelé à témoigner. Tu sais, dans l'affaire contre Fakir, c'est LVMH contre Fakir.
Non, j'ai pas suivi.
Ah, t'as pas suivi. Tu sais, c'est
oublié d'acheter les actions.
Zut alors. Mais est-ce que tu en as les moyens d'abord?
On sait jamais. Si tu veux vraiment, tu as les moyens.
Ouais. Bon, ok. LVMH qui En fait, c'est l'histoire du Squall, de Bernard Squarcini, qui était le patron du renseignement français, à l'époque, quand même. Mais bon, il travaillait pour l'homme le plus riche de France, aussi. Et donc, qui devait le débarrasser de ses empêcheurs de lustrer en rond, n'est-ce pas, de je sais pas quoi, de tapisser enfin, tranquillement, n'est-ce pas, les choses. Et il s'agit donc de... Merde, comment il s'appelle, le député ?
Je connais pas les députés.
Le patron de Fakir.
Je connais pas les députés.
Merci, patron. C'est qu'il a fait... Ah, oh, putain. Allez.
Ruffin.
Ruffin, voilà. Qui a enquêté contre Ruffin. Donc, il y a le procès en ce moment. Le procès pour les écoutes, tout le pistage, tout le travail de Barbouze qui a été fait pendant que Ruffin préparait son film... Merci, patron.
D'accord. Voilà. Bon, on va rester dans le judiciaire, si tu veux, un tout petit peu, là, encore. C'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'imagine que oui, l'histoire de Cédric Chouviat.
Oui.
Et les problèmes de respiratoires qui n'avaient rien à voir avec le Covid, cette fois-là. Ouais, donc, il y a la famille de Chouviat qui écrit une dernière fois au juge pour essayer de changer la donne. Bon, j'imagine qu'il y aura... peu de surprise. Hein. Donc je remets un peu la situation. 3 janvier 2020, Chouviat est mort asphyxié lors d'un contrôle de police pendant lequel il a été plaqué au sol et a subi une clé d'étranglement.
Alors qu'il avait encore son casque de moto sur lui.
Alors qu'il était menotté et casqué. À cette reprise, le livreur de 42 ans a répété « J'étouffe ». Peut-être que ça voulait dire quelque chose. Peut-être qu'il étouffait.
Mais non, c'est une fat de sioux.
Ah. Sans que les fonctionnaires relâchent leur étreinte. Près de 5 ans après les faits, le parquet de Paris a demandé que 3 des 4 policiers ayant participé à son interpellation soient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, estimant que, j'aime bien le terme, le recours à la force était donc justifié, nécessaire et proportionné, mais qu'ils avaient commis des maladresses, imprudences et négligences. Donc j'ai envie, il est en train de dire que c'est... des maladresses justifiées, des imprudences nécessaires, des négligences proportionnées. Je pense que c'est ça que le juge voulait dire, non ? C'est pas ça le bon truc ? Moi, c'est ça que j'ai compris, en fait. Donc, c'est assez fin, la justice. Moi, je comprends pas, en tout cas, du tout. Donc, évidemment, sans surprise, le juge d'instruction devrait suivre ses réquisitions et devrait libérer donc, tout le monde, sauf la famille de Chouviat. Voilà, juste pour finir peut-être, pour clore la partie judiciaire de l'épisode, on va peut-être passer maintenant, après une pause musicale, mais on va passer un petit peu aussi à l'actualité internationale,
qui est
quand même très riche. Avec la
alors, il y a un truc, en fait, je suis en train de penser à ça, de justice, je passe un peu du coq à l'âne, mais pas tant que ça, c'est sur le site de mars-info.org, vous avez un article qui s'appelle « Récit de garde à vue ». Par la Legal Team de Marseille. Et en fait, c'est des récits bruts de ce qui se passe en garde à vue. C'est instructif. En tout cas, c'est parce que du coup, en effet, le jour où on se retrouve à être en garde à vue, on est impressionné.
Oui, c'est bien d'avoir une expérience, effectivement, ça change énormément.
On est impressionné. C'est, du coup, de lire ces récits, ça permet de psychologiquement déjà être mieux préparé à ce qui peut se passer. Et comment ne pas se faire broyer par la mécanique,
absolument, etc. C'est très important, je pense, effectivement, d'avoir une expérience.
Je dis ça, je dis rien.
Voilà. C'est les récits de garde à vue marseillaise, là, donc dans mars-info.org.
Dans la il y avait un commissariat. We'll be right back.
Alors moi je propose qu'on coupe la musique juste parce que enfin qu'on a encore des choses à dire, le temps passe, il est 50.
Donc il y a quand même le gros événement quand même au Moyen-Orient, c'est la trêve qui a été conclue au Liban.
Oui.
Donc c'est compliqué hein, puisque c'est
une trêve très fragile parce que l'autre il s'est octroyé le droit de la rompre à tout instant.
C'est alors voilà, c'est assez étonnant comme situation. On n'est pas du tout dans la situation de 2006 là. Hein. On fait une trêve, chacun repart dans son camp. Le Hezbollah est super content, on se considère comme, enfin même s'ils font semblant d'avoir gagné ce coup-ci aussi, mais ouais. Bon, la réalité c'est qu'ils ont perdu 80% de leur armement. Ils ont alors il y a
Des choses. C'est,
bon, déjà, il y a...
Ils ont comme réussi, encore une fois, à faire un peu peur à Israël, sur certains moments, sur certaines salves très massives.
Là, ils sont quand même dépouillés, là, quand même, Hezbollah. Enfin, t'as même, les autres communautés qui essaient d'en profiter un petit peu pour...
Pour leur prendre la place.
Pour leur prendre la place, même c'était quoi les accords de Taif en 89, là, c'est-à-dire de demander même la démilitarisation des factions.
Ouais.
Enfin, tu sens que quand même c'est pas une grosse victoire quand même pour le Hezbollah.
Non, c'est pas une grosse victoire.
Et là, la situation quand même de la trêve, c'est-à-dire que en gros Israël recule, le Hezbollah part du sud. Et il doit pas broncher le moindre cheveu, parce que si Israël voit une arrivée d'armement, s'il y a une construction de tunnels, s'il y a quoi que ce soit qui peut être une reconstitution des moyens du Hezbollah, bon, la trêve est arrêtée. Là, c'est terrible, parce que là, on voit quand même toutes les routes, là, tous les gens qui reviennent, que ce soit à la plaine de la Beka ou vers le fleuve Litani, là, toutes les régions au sud. Les gens reviennent essaient de revenir dans leur maison, s'il en reste, parce que ça a fait quand même un petit cadavre.
Parce qu'il y a plein de villages qui ont été juste
simplement
rasés, bombés.
Je crois qu'il y a 30 villages qui n'existent plus du tout, qui sont complètement rasés. C'est quand même, ça a fait quand même, alors bien sûr c'est pas Gaza, parce que Gaza c'est plus, mais quand même, il y a 3754 morts, a priori aujourd'hui, 15626 blessés. Il faut voir, pour donner une idée de l'efficacité relative quand même, hein, il y a 10% sont des combattants du Hezbollah, il y a 360 morts sur 3700,
ouais.
Et 15% qui sont des factions diverses autour du Hezbollah, mais qui ne sont pas directement du Hezbollah. Donc en fait, ça fait quand même 75% de victimes qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick.
Ouais.
Donc bon, pour eux, je pense que c'est très bien quand même qu'il n'y ait plus de bombardement.
Alors, mais ceci dit, donc il y a au Liban il y a une trêve ouf. Enfin c'est.
Oui. Enfin ouf. Moi je sais pas si on peut dire vraiment ouf, parce qu'en fait en gros c'est quoi? C'est chacun est en train de dire allez on prend 5 minutes pour se refoutre dans la gueule.
Écoute, justement, j'ai envie de te dire le dimanche 1er décembre au local de Solidaire 13. À 10h30.
Ce dimanche, là.
Donc ce dimanche, au Lugano Solidaire 13, qui est au 29 boulevard Longchamp, il y a une conférence et café buffet autour donc des résistances palestiniennes d'hier à demain. Ce sera avec Ramzi Baroud, historien, journaliste, auteur et militant palestinien, directeur de publication de Chroniques de Palestine. Justement, c'est peut-être un endroit pour parler de tout ça. Journée portée par la Brigade panafricaine pour la Palestine, FUIQP, la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdelham Abdallah et le Secours Rouge Marseille. Donc, ça se passe à Solidaire, 29 boulevard Longchamp. Et il y a aussi un autre truc qui, là, par contre, est vraiment beaucoup plus... qui examinera les questions de fond, c'est le 4 décembre, à Manifestan, donc ce sera jeudi prochain, mercredi 4 décembre, à Manifestan, une discussion croisée entre des militants marseillais contre le génocide en Palestine et Adi Kalai, qui est animateur de la chaîne YouTube Rêve, Rêve and Rêve, qui est un chercheur en philosophie militaire et juif antisioniste, autour de son film qui s'appelle Gaza's Ghetto Uprising. Alors, je l'ai vu, le film, et franchement, ça, c'est bien, parce que c'est, faut prendre le temps, il faut prendre le temps, c'est dense. Ça analyse, ça décortique complètement la stratégie militaire. En fait, c'est ça. Il analyse la philosophie de l'engagement militaire israélien en Palestine.
D'accord. Sur quel angle, c'est-à-dire ? Territorial, stratégique.
Il te passe le territorial, le stratégique, le politique. C'est-à-dire qu'il te dit, par exemple, le film commence par un constat. Il y a deux types de... Face à l'oppression, face à l'esclavage, tu as deux types de, grosso modo, deux types de réactions. Tu as la réaction à la Gandhi, qui est plutôt pour prôner le pacifisme, enfin la résistance passive, pacifique, pardon, pas passive, pacifique, qui dirait plutôt, créer un suicide de masse, tu sais, pour heurter vraiment l'opinion publique, pour que vraiment ça cesse. Et tu as des choses comme plutôt Frantz Fanon, qui lui serait plutôt partisan pour juste dire, qui lui est plutôt partisan de dire le... En fait, c'est au moment de l'acte violent que l'opprimé retrouve son humanité. Enfin, tu vois, ça commence sur ces constats-là, qui sont très profondément philosophiques. Mais ensuite, ça va sur les différentes... Ça se finit sur les différentes... il me manque le mot. Les stratégies militaires, les différentes stratégies militaires qui sont employées. Donc, il peut les nommer parce que, donc, ils sont cités, parce qu'il reprend les bouquins, les manuels de... Les manuels des généraux, d'écoles de guerre américains, israéliens, etc., etc. Donc, c'est vraiment un film très fouillé, très, très dense et très intéressant.
D'accord. Et ça, c'est à Manifestine qu'on
peut
le voir, c'est ça ?
Et donc, son auteur... Alors, on peut voir le film à n'importe quel moment, parce qu'il est sur YouTube.
D'accord.
Là, j'ai...
Manifestine, je vois qu'il a fait...
Et Manifestine, donc, mercredi prochain, à partir de... Quelle heure ? Allez, on va dire...
Le 4 décembre, oui.
Le 4 décembre, à partir de 18h.
À partir de 17h.
17h.
Voilà. Voilà. Plus informel, autour du bar, d'un apéro dînatoire à prix libre.
Voilà.
Voilà.
À partir de 19h, donc, on démarrera par une présentation de son travail, par Adi Kalai, suivi d'une longue discussion croisée avec... Tzedek, Stop Arming Israel 13, et vous, si le souhaitez, n'est-ce pas? Attention, il n'y aura pas de projection de son film, donc il est conseillé de le regarder avant. Il est en accès libre sur YouTube.
Ah d'accord, donc il ne sera pas effectivement...
Il n'y aura pas la projection du film.
Donc il faut le voir avant si on veut en parler.
C'est bien de le voir avant. Donc allez sur... vous savez quoi? Moi c'est ce que j'ai fait, je suis allé sur mars-info.org.
Oui.
Et Marseille Info Autonome, et j'ai vu sur l'article qui en parle, et tout en bas, il y a le lien vers le lien YouTube, vers ce film, que j'ai pris le temps de voir, et franchement, je vous le recommande. Ceci dit, il est 18h58, malheureusement, il faut absolument qu'on rende l'antenne, parce que l'émission d'après passe en différé, enfin bref, il ne faut pas que... pas d'entourloupe, on a dit d'accord. Alors, tiens, une petite truc pour détendre l'atmosphère, parce qu'on n'a pas été très léger aujourd'hui. Alors,
on va faire du bien.
Voilà, un truc, ça, on enlève. Et...
Ne pas oublier, c'est la base.
À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, belles et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. On dit qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, ou déjà se sont entassés. Ce qu'on crut en la société, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. tu en fais, plus tu l'espères, plus ta santé déjà précaire te libère.
Ote bana, salut à tous, c'est Davy Sicard. Vous écoutez Radio Galère sur la fréquence 88.4 FM, sur le site https